Valeur HI 203 et 209, initiation à l'histoire du Moyen-Âge. Deuxième cassette, première phase présentée par Monsieur Neveu.
Le baptême de Clovis. Il s'agit d'une explication de documents. Vous devrez avoir sous les yeux les trois documents qui vous ont été donnés. Le premier, qui est le récit de Grégoire de Tours, la lettre de Saint-Avite et la lettre de Nicétius, autrement dit Saint-Nizier, évêque de Trèves. Vous pourrez avoir à proximité de vous également les conseils pour une explication de documents qui vous ont été distribués. Je commence donc par la présentation du document. C'est le premier document, le récit de Grégoire de Tours, que nous allons expliquer en détail. Les deux autres nous serviront d'illustration pour la question de la date du baptême. Premier point de la présentation, quelle est la nature du document ? En ce qui concerne ce premier document, il s'agit bien entendu d'un récit historique. L'auteur est bien connu, c'est Grégoire de Tours, de son vrai nom Gergius Florentius, né à Clermont-Ferrand vers 540. Qui appartient à une famille de l'aristocratie sénatoriale gallo-romaine. Il a dans sa famille beaucoup de membres éminents et beaucoup qui ont fait des carrières ecclésiastiques, notamment Saint Grégoire, évêque de Langres, dont il a repris le nom. Il est élevé par sa mère, près de son oncle, un autre évêque, l'évêque Gallus, mais son éducation est assez médiocre. Il n'était plus possible à cette époque d'apprendre à écrire et à parler un bon latin. Il fait naturellement une carrière ecclésiastique. Diacre, il va s'installer à Tours auprès d'un autre parent, l'évêque Euphronius. C'est à lui qu'il succédera comme évêque de Tours en 573. Son œuvre principale, dont ce texte est extrait, c'est l'Historia Francorum, autrement dit l'histoire des Francs. Il est mort en 593 ou 594. Quelle est la destination du document ? Il est destiné, bien entendu, à un public lettré, c'est-à-dire, au VIe siècle, à un public de clercs. La transmission de documents ? Est-il authentique ou non ? La question ne se pose pas ici. Mais c'est un texte qui a été édité à une période ancienne. Maintenant, les circonstances du document. D'abord, les circonstances du moment où le texte a été écrit, c'est-à-dire le VIe siècle, l'époque de Grégoire de Tours. C'est évidemment la période carolingienne, une période assez troublée, nous avons déjà parlé dans la cassette précédente, des événements de cette époque. Et nous en reparlerons. Concernant maintenant les événements qui sont relatés dans le texte, il s'agit d'un épisode de la vie de Clovis dont nous avons parlé dans la cassette précédente. C'est l'événement de la 15e année du règne, autrement dit, d'après la chronologie de Grégoire de Tours, vers 496. Mais nous le verrons, cette question de la chronologie pose problème. Je rappelle les événements précédents. En 486, Clovis s'est emparé du territoire de Siagrius et en 491, il a fait une campagne contre les Thuringiens. Ensuite, il a épousé Clotilde, princesse burgonde catholique. Quelle est l'idée générale du texte ? Selon Grégoire de Tours, la conversion de Clovis est dû à sa victoire sur les Alamans, qu'il attribue au dieu de Clotilde. L'idée essentielle, c'est donc la liaison entre la guerre contre les Alamans et le baptême. Venons-en maintenant à l'analyse. Et je commence par une analyse littérale. Dans le cas de l'examen, cette analyse littérale ne devrait figurer qu'au brouillon. Il faudra, dans une seconde étape, faire un plan pour fournir une analyse définitive. C'est ce que nous ferons tout à l'heure. Le texte commence ainsi. La reine ne cessait de prêcher pour que Clovis connaisse le vrai Dieu et abandonne ses idoles. On voit donc que la reine joue un rôle essentiel et on va la retrouver aux épisodes clés du texte. Ensuite, c'est le récit de la guerre contre les Alamans, une guerre qui tourne mal pour Clovis, et son armée est sur le point d'être battue. Alors, d'après Grégoire de Tours, Clovis se souvient alors des enseignements de Clotilde, et dans une véritable mise en scène, il place dans la bouche de son héros un discours, tout à fait invraisemblable dans le cadre de la bataille, qu'on peut résumer ainsi. Si tu m'accordes la victoire sur ses ennemis, je me ferai baptiser. Voici donc les termes du marché que Clovis propose à Jésus, au Fils de Dieu. Alors, d'après notre auteur, l'effet est immédiat. Je lis les lignes 19 et 20. Comme il disait ces mots, les Alamans, tournant le dos, commencèrent à prendre la fuite. Lorsqu'ils virent leur roi tué, ils firent leur soumission à Clovis. Alors, évidemment, l'auteur attribue à l'action divine la victoire subite de Clovis. On peut chercher une explication plus rationnelle, et je crois que le texte nous la fournit, puisqu'il nous dit que le roi des Alamans est tué dans la bataille. Et nous savons qu'à cette époque, quand le roi est tué, le sort de la bataille est réglé. Alors, ensuite, le roi harangue son peuple, on y reviendra tout à l'heure. Il raconte à la reine ce qui s'est passé, seconde intervention de Clotilde. Et ensuite, ligne 25, Grégoire de Tours nous dit « Ceci s'accomplit la 15e année de son règne, c'est-à-dire 496 selon sa chronologie. » Arrêtons-nous un moment sur cette date, car nous avons d'autres documents qui sont quelque peu contradictoires avec celui-ci. D'abord, un document que je ne vous ai pas fourni, une lettre de Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths, à Clovis. Cette lettre, rédigée par le conseiller de Théodoric, Cassiodore, est un plaidoyer en faveur des Alamans vaincus. Voilà un document qui correspondrait tout à fait à la situation, mais la date, en revanche, ne convient pas du tout, puisque ce document est de 506, 10 ans plus tard. La question reste ouverte pour le moment. Voyons le second document, lettre de Saint-Avit, évêque de Vienne. C'est une lettre de félicitation à Clovis pour son baptême. Vous avez sous les yeux le texte de cette lettre. C'est le document numéro 2. Je m'attarderai sur un passage de ce texte, c'est le troisième paragraphe, ligne 21. La Grèce également peut se réjouir d'avoir choisi un empereur qui soit des nôtres. Mais désormais, elle ne sera plus la seule à être digne d'une telle faveur. Sa clarté illumine aussi ton empire, et dans l'Occident, une lumière à l'éclat renouvelé a resplendi sur un de ses rois. C'est bien à propos que la nativité de notre Rédempteur a inauguré cette gloire. Vous avez donc une allusion à la Grèce, c'est-à-dire à l'empereur byzantin. L'empereur de cette époque, c'est Anastase, qui était catholique, mais en 506, il est devenu hérétique. Donc, ça nous apprend simplement que le texte, et donc le baptême, est d'avant 506, car, bien entendu, la lettre elle-même n'est pas datée, malheureusement. Il y a cependant une précision nouvelle qui nous est apportée. On voit dans le texte que le baptême a eu lieu le jour de Noël, la nativité de notre Rédempteur. Or, ceci mérite une explication, car au début du 6e siècle et à la fin du 5e siècle, on ne baptisait pas à Noël. Habituellement, l'évêque baptisait une fois par an les catéchumènes au cours de la veillée pascale. On a donc fait, selon toute vraisemblance, exception pour Clovis, et on l'a instruit et baptisé beaucoup plus rapidement que la normale. Troisième document, que vous avez également sous les yeux, c'est la lettre de Saint-Nizier, évêque de Trèves. Il s'agit cette fois d'un document beaucoup plus tardif, mais qui nous apporte un autre récit de l'événement. Nicétius, évêque de Trèves, s'adresse à la reine des Lombards, femme du roi Alboin, qui est une princesse franque, descendante de Clovis. Et comme ce roi des Lombards est arien, l'évêque incite la reine à le convertir, comme Clotilde l'a fait pour Clovis. Je lis le passage, deuxième paragraphe. Tu as appris de quelle manière ta grand-mère, la maîtresse de bonne mémoire Clotilde, était venue en France, et comment elle amena le seigneur Clovis à la loi catholique. Tu as appris que lorsqu'il eut compris que ce que j'ai dit plus haut était vrai, il tomba humblement à genoux sur le seuil du seigneur Martin et promit de se faire baptiser sans délai. Et une fois baptisé, combien de hauts faits il a accomplis contre les rois hérétiques Alaric et Gondebaud. Ce texte pose plus de problèmes qu'il n'en résout, puisqu'il parle du seigneur Martin, c'est-à-dire de la ville de Tours, et qui était entre les mains des Visigoths avant la conquête de Clovis en 507. Cependant, nous savons qu'il y a eu plusieurs incursions des Francs en territoire visigothique avant 507. C'est donc une autre version de la conversion et du baptême. Revenons au premier texte, le récit de Grégoire de Tours. J'en continue l'explication littérale à partir de la ligne 26. Alors la reine fait venir en cachette Saint-Rémy, évêque de la ville de Reims. Saint-Rémy, évêque de Reims, est un personnage important de cette époque. Il est né à Laon vers 437 et mort à Reims vers 530, donc vécu très vieux. Il est d'ailleurs surtout connu par Grégoire de Tours et par cet épisode essentiel du baptême de Clovis. Nous possédons aussi quelques lettres de lui, dont une lettre de félicitations adressée à Clovis, mais on ne sait pas exactement à quelle occasion. La présence de Saint-Rémy, évêque de Reims, a incité la plupart des historiens du passé à situer le baptême dans cette ville de Reims. Mais malheureusement, rien ne l'indique positivement dans le texte, et par ailleurs, c'est quelque peu en contradiction avec l'autre version attribuant ce mérite à la ville de Tours, ville de pèlerinage très célèbre à l'époque mérovingienne. Voilà donc Saint-Rémy qui instruit Clovis. Cette instruction se fait en cachette, car, et ceci est très vraisemblable, Clovis a peur de la réaction de son peuple, qui, bien entendu, est toujours païen. Alors, encore une fois, Grégoire de Tours fait intervenir Dieu dans les événements. Ligne 34, Clovis dit, c'est que le peuple qui me suit ne peut pas délaisser ses dieux, mais je m'en vais l'entretenir conformément à ta parole. Il se rendit donc au milieu des siens, et avant même qu'il eût pris la parole, la puissance de Dieu l'ayant devancé, tout le peuple s'écria en même temps, les dieux mortels, nous les rejetons, puis roi, et c'est le dieu immortel que prêche Rémy que nous sommes prêts à suivre. Donc ceci est assez invraisemblable. En revanche, on peut attribuer à l'ascendant de Clovis sur ses hommes et sur son peuple une conversion collective qui n'était certes pas une conversion en profondeur. Entre parenthèses, on peut voir ici quelle conception Grégoire de Tours, chrétien, se faisait de la religion polythéiste traditionnelle, puisqu'il considérait les dieux traditionnels comme des dieux mortels. Nous en arrivons ensuite à la description du baptême. Ligne 40. Ces nouvelles sont portées au prélat, qui, rempli d'une grande joie, fit préparer la piscine. Ceci mérite un commentaire. Les baptêmes avaient lieu à cette époque dans un bâtiment particulier, le baptistère, qui était toujours séparé de l'église cathédrale principale et qui avait une forme circulaire ou bien octogonale. Je continue. Ce fut le roi qui le premier demanda à être baptisé par le pontife. Il s'avance, nous vont Constantin vers la piscine pour effacer la maladie d'une vieille lèpre et pour effacer avec une eau fraîche les sordides taches anciennement acquises. La comparaison avec Constantin est tout à fait classique puisque cet empereur romain dont nous avons déjà parlé est considéré comme le premier empereur chrétien. Nous savons en réalité que sa conversion n'a pas été complète ni rapide, mais qu'il a été effectivement le premier à tolérer le christianisme à partir de son avènement en 312 et qu'il a fait figure vers la fin de sa vie de véritable chef de l'Église catholique. Ensuite, l'explication concernant le baptême est une explication traditionnelle, le péché originel étant considéré comme une maladie, comme une lèpre que l'eau du baptême va effacer. Ensuite, nous avons un résumé du sermon prononcé probablement par Saint Rémy. Dépose humblement tes colliers au sycambre. « Adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. » Le mot « sycambre » est le nom d'une ancienne tribu germanique qui entre probablement dans la formation du peuple franc. Grégoire de Tours répugne quelque peu à utiliser un mot nouveau comme celui de « franc » dans son latin qui n'est pourtant pas excellent. La phrase fait évidemment allusion au pillage et destruction d'églises et d'objets ecclésiastiques dont les Francs se sont certainement rendus coupables. Je continue, ligne 49. Ainsi donc, le roi ayant confessé le Dieu Tout-Puissant dans sa Trinité, fut baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et oint du Saint-Crème avec le signe de la croix du Christ. Nous avons ici un écho des paroles traditionnelles qui sont toujours aujourd'hui en vigueur dans l'Église catholique et qui était déjà utilisée à l'époque mérovingienne. Vous avez la confession de la foi et notamment de la Trinité. Cette insistance sur la Trinité est tout à fait normale, alors qu'à cette époque, la doctrine officielle était menacée par des hérésies qui s'en prenaient justement à la réalité de la Trinité, c'est-à-dire un seul Dieu, mais trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a beaucoup commenté également cette onction du Saint-Crème en y voyant parfois un véritable sacre. Or, en fait, c'est un rite habituel du baptême à cette époque, c'est l'onction post-baptismale, qui existe toujours d'ailleurs dans les rites du baptême, mais qui servait à cette époque également de ce qu'on appelle aujourd'hui la confirmation. Dernière phrase du texte, ligne 51, plus de 3000 hommes de son armée furent également baptisés. Ce baptême collectif est assez peu probable dans la réalité, mais la phrase est claire. Il veut signifier que le baptême de Clovis a été suivi effectivement par le baptême de nombreux guerriers et que l'ensemble du peuple franc est devenu chrétien, du moins officiellement, aussitôt après son roi. Voilà donc terminé l'explication littérale. Il faut en venir maintenant à la partie essentielle, c'est-à-dire qu'il faut regrouper toutes ces explications selon un plan cohérent. Il y a toujours plusieurs possibilités dans ce domaine, mais je vous indique tout de suite quel est mon plan. Je vous rappelle que seul ce plan définitif doit figurer sur la copie. Voici ce plan. Première partie, Clovis et son peuple. Deuxième partie, la conversion de Clovis. Troisième partie, la cérémonie du baptême. Première partie donc, Clovis et son peuple. Clovis apparaît comme un roi guerrier à la tête de ses soldats. C'est un roi qui pratique la violence, bien entendu, notamment dans le cas de la guerre contre les Alamans. Cependant, vous avez une présentation assez orientée de Grégoire de Tours. Il est question de componction, de pieux roi. On a quelques idées dans le texte du mode de gouvernement. Clovis doit tenir compte de l'avis de son peuple. Et pour ceci, le discours est important. Nous voyons ligne 23, Clovis qui harangue son peuple. Et ligne 35, un entretien sur la religion. Mais dans la réalité, c'est certainement Clovis qui réussit à entraîner son peuple, à lui imposer des choix qu'il a fait lui-même. Troisième point, la religion des Francs, c'est une présentation caricaturale. Des idoles, ligne 2 et 31, donc représentation des dieux qu'on adore. Plusieurs dieux, c'est évidemment une religion polythéiste, mais des dieux mortels, selon Grégoire de Tours. D'autre part, ligne 15, une prière utilitaire, et les dieux sont jugés sur leur efficacité. La présentation qui nous est faite par Grégoire de Tours ne vise qu'à mettre en valeur la religion chrétienne à laquelle Clovis se convertit. Deuxième partie donc, la conversion de Clovis. J'insiste sur le rôle de Clotilde, qui est essentiel. Je rappelle que c'est une princesse burgonde qui est catholique, alors que la plupart des autres burgondes, et notamment sa famille, étaient ariennes. L'influence de Clotilde a longtemps été sans succès. Son prêche est inefficace au début du texte. Ensuite, Clovis va lui raconter ce qui s'est passé pendant la bataille, lignes 24 et 25. Et enfin, elle fait venir Saint-Rémy, ligne 27. Elle a donc un rôle tout à fait essentiel dans ce récit. Deuxième élément de cette seconde partie, la bataille contre les Alamans. Le lieu est incertain. On n'est pas sûr qu'il s'agisse de Tolbiac, c'est-à-dire de Tulpich, près de Cologne. Ce n'est pas indiqué dans le texte. Et Grégoire de Tours n'en parle qu'à un autre passage de son Histoire des Francs. La date est évidemment incertaine. On en a parlé tout à l'heure. 15e année, 496, d'après Grégoire de Tours. Mais les autres sources sont contradictoires. En tout cas, c'est une bataille indécise, sur le point d'être perdue. C'est l'invocation du dieu de Clotilde qui va changer le cours des événements. Je rappelle que le discours est assez invraisemblable, que c'est une mise en scène littéraire tout à fait courante chez les auteurs latins classiques. L'effet est immédiat. On voit ici, bien sûr, le point de vue religieux de Grégoire de Tours. Je rappelle l'explication naturelle possible par la mort du roi des Alamans, signalée ligne 21. Troisième point de la deuxième partie, le rôle de Saint-Rémy, qui est appelé dans le texte évêque de Reims. En fait, il s'agit d'un siège métropolitain, on pourrait dire archevêque. Il est appelé également pontife, ce qui ne signifie pas ici souverain pontife, c'est-à-dire pape, bien entendu. C'est un évêque réputé de son vivant, qui va rapidement, après sa mort, être considéré comme un saint. L'instruction se fait en cachette, en secret, nous dit le texte. Clovis et Saint-Rémy se méfient des réactions du peuple. Quelle est la présentation de la religion chrétienne qui nous est faite? Les questions de la parole du salut, c'est-à-dire la parole de Dieu, mais ceci nous rappelle aussi que la religion chrétienne est une religion de salut. Ligne 30, c'est le vrai Dieu opposé aux idoles, qui sont des faux dieux, un Dieu créateur. Ligne 50, c'est la Trinité, Trinité en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, contre les Ariens, comme j'ai dit tout à l'heure. Enfin, ligne 10, la seconde personne de la Trinité, Jésus, considéré comme le Fils de Dieu. Jésus qui a deux natures, une nature humaine et une nature divine. Voilà donc résumé dans ce texte l'essentiel de la foi chrétienne, avec une atmosphère de miracle qui est tout à fait caractéristique de cette époque. J'en arrive à ma troisième partie, la cérémonie du baptême. Le rôle du baptême nous est donné dans le texte, ligne 43-45. Il s'agit d'effacer le péché originel remontant aux premiers hommes, Adam et Ève. Clovis est considéré comme le nouveau Constantin. J'en ai parlé tout à l'heure. Les rites du baptême, d'abord la piscine, il ne s'agit pas d'une véritable immersion à cette époque. La piscine est assez peu profonde. L'eau monte à peu près jusqu'à la cheville. Le futur baptisé est revêtu d'une chemise blanche. Il descend dans la piscine et l'évêque l'asperge. C'est le rite du baptême tel qu'il est pratiqué en Occident à cette époque. Commentons le discours de Saint-Rémy, dépose ses colliers comme nous l'avons fait tout à l'heure. Ensuite, les paroles sacramentelles telles qu'elles ont été conservées jusqu'à aujourd'hui dans l'Église catholique. Et l'onction du Saint-Crème, qui n'est pas un sacre, j'en ai parlé tout à l'heure. Enfin, le baptême des guerriers. J'en arrive à la conclusion. Ne négligez pas la conclusion. C'est très important. Et une bonne explication doit comprendre une conclusion riche et fournie. Quels sont donc les enseignements du texte? Ils sont très importants puisque c'est le seul document qui nous apporte un récit complet concernant le baptême de Clovis. Les renseignements qui nous sont donnés sur les circonstances du baptême sont très précieuses, à condition d'y ajouter foi, car j'en arrive tout de suite au second point, c'est-à-dire la critique. Un texte qu'il faut critiquer, bien entendu, comme tout texte historique. Or, ici, c'est un texte volontaire, et Grégoire de Tours veut prouver quelque chose et veut montrer l'intervention de Dieu dans la vie de Clovis. Il a un point de vue étroitement religieux. Pour lui, tout s'explique par l'intervention divine, aussi bien la victoire de Clovis, bien entendu, que sa conversion, que la conversion du peuple, également miraculeuse. Il faut rappeler ici la contradiction avec d'autres documents, en particulier sur la question de la date. Grégoire de Tours est le seul à faire la liaison avec la bataille contre les Alamans. Le lieu est aussi incertain que la date. Quant à la date, on est obligé d'en rester à une fourchette assez large de 10 ans. Le baptême a eu lieu, si l'on tient compte de tous les documents, entre 496 et 506. On ne peut pas malheureusement aller plus loin. Dernier point de la conclusion, quelle est la portée historique du texte? Évidemment, l'événement qui nous est décrit est de première importance. C'est le premier roi barbare important converti au christianisme, alors que les autres rois barbares sont ariens. Clovis va donc obtenir l'appui de la population gallo-romaine et de ses cadres ecclésiastiques, les évêques essentiellement. C'est un élément fondamental du succès du royaume franc, parti de si peu et promis à un si grand avenir. Cet événement a eu un grand retentissement ultérieur et il a favorisé la légende. Je citerai deux exemples, la légende du sacre de Clovis, qui n'a pas eu lieu dans la réalité, mais cette légende a favorisé le sacre ultérieur des rois de France à Reims et, accessoirement, la légende de la Sainte Ampoule apportée miraculeusement à l'évêque Rémy.